Bienvenue à l'expérience audio Simplement plein air. Cette expérience vous est rendue possible grâce à la participation des partenaires suivants.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner. Et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre. Temps frisquet, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Le mercredi balado-diffusion chez Simplement plein air, on y retrouve de tout pour tous, sauf la chasse, sauf la pêche, car c'est le lundi pour la pêche et le vendredi pour la chasse. Simplement plein air, de la balado-diffusion à son meilleur. Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, Simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Et voilà, on va aller s'enquérir de nouvelles du Nord. Et naturellement, ben quand on va dans le Nord, dans le coin de Radisson, pour ne point dire à quelques kilomètres au sud de Radisson, ben, on va rejoindre notre bon ami à nous, Monsieur Stéphane... Stéphane, Sylvain Paquin. Salut, mon cher.
Hey, salut, Guy. Tabarnouche, pour moi, il fait trop chaud dans le sud.
J'ai un petit lapsus d'un de mes amis de l'Abitibi qui s'appelle Stéphane Paquin, justement. Donc, écoute, Sylvain, des nouvelles du Nord, il y en a beaucoup. Là, premièrement, c'est le temps de la chasse à l'orignal, donc vous devez connaître un affluent pas mal là-bas, là, hein?
Oui, je te dirais, on se déguise en citrouille pour se faire tirer à date. C'est pas vraiment une problématique, beaucoup de monde. Aujourd'hui, exceptionnellement, on a un beau soleil depuis, je te dirais, ça fait un méchant bout qu'on n'a pas vu le soleil. Puis, ben, ce week-end, on devait avoir de la forte pluie qu'on n'a pas eue. Je te dirais que Dame Nature est quadripolaire, donc beaucoup de pluie, beaucoup de véhicules. C'est un petit peu spécial comme mois de septembre, je te dirais. Non, à date, je te dirais, c'est pas mal tranquille. Là, j'ai entendu dire qu'il y avait quelques personnes que je connaissais qui avaient prélevé quelques orignales pour remplir le frigo, là. Puis, je te dirais, c'est des bonnes nouvelles,
là. Oui, puis là, les touristes, ça doit commencer à baisser un tout petit peu. Je parle... Pas des touristes scientifiques ou des personnes là, qui touristent au niveau de la photo et de l'observation animalière, mais juste des touristes, là, monsieur, madame, tout le monde, ça doit commencer à baisser un peu.
Ben, en tout cas, cette semaine, oui, mais pas la semaine passée. La semaine passée, j'ai été occupé pas mal toute la semaine. Des gens un petit peu de partout. Mais on a fait des sorties en randonnée quand même agréable, malgré une petite bruine du soleil, de la neige. On a eu, c'était une journée, on a eu les quatre saisons. Un petit peu de neige, un petit peu de pluie, un peu de grésil, un peu de soleil, un petit peu de neige, un petit peu de... ça a été... mais effectivement que présentement, cause de la chasse, c'est un petit peu plus compliqué. Avec la météo aussi, c'est un petit peu plus compliqué, mais je te dirais... octobre, novembre, à date, j'ai beaucoup de gens qui s'enlignent pour venir faire un tour après la chasse. Là.
Oui, parce que c'est encore, il reste beaucoup de choses à faire. Là. C'est les gens qui voudraient y aller, ils vont faire quoi? Là? Il y a de l'observation, naturellement, des animaux. Il y a beaucoup, beaucoup d'observations. Les champignons, comment ça se tient? Hein?
Ben là, présentement, je te dirais, c'est quand même, plus ça va, moins il y en a. Mais c'est encore viable. Il y en a encore un peu partout. Je te dirais, on avait peur un peu avec la pluie. Je te dirais, ça se maintient, là, doucement les champignons. Observation de la faune de la flore, c'est sûr que présentement, c'est un petit peu compliqué à cause de la chasse, puis aussi à cause l'épisode d'ours qui s'est fait...
Oui, justement, là, on va...
Assassiner, ben, en tout cas, moi, j'appelle ça assassiner.
Carrément.
Fait que je te
bon
dirais
mot.
Que c'est un drôle de mois de septembre. Pas vraiment rien de drôle, mais je veux dire, c'est un petit peu spécial.
Oui, ça va avec l'année 2020, je pense. Hein? On a une année un petit peu...
J'ai hâte que ça finisse, je te dirais.
Oui, je me souviens d'avoir été content d'arriver en 2020, mais ça n'a pas trop pris de temps qu'on a déchanté d'être en 2020, on va dire comme on dit. Mais la saga de l'ours, j'aimerais ça revenir là-dessus. Est-ce que tu en as eu plus de nouvelles au niveau de l'enquête et puis de ça?
Ben, au niveau de l'enquête, pas vraiment, parce que quand même, les gardes-chasse vont faire leur boulot. Comme tu sais, il y a quelques semaines, j'avais fait une plainte parce qu'il y avait des problématiques. Mm-hmm. Donc les ours qui avaient un peu disparu ont rencontré les gardes-chasse et je veux dire quand t'as pas de carcasse, t'as pas de sang, c'est une certaine problématique. Mm-hmm. Mais avec une carcasse, tu vois, la semaine passée, on s'est dirigé faire le tour des caméras. Puis ben on est arrivé à mon endroit où ce que je fais l'observation et justement on trouvait que ça sentait un peu pas bon puis on s'est aperçu qu'il y avait un ours qui venait de se faire tirer probablement il y a quelques jours. Puis ben ça a un petit peu commotionné les gens. Écoute, je te dirais à 10 mètres de ma caméra.
Ah, oui.
Puis ben, on a appelé les gardes-chasse sont venus faire l'enquête, sont venus faire leur boulot. Puis ben j'ai aucune idée pourquoi il y en a qui ont décidé de tuer un ours pour le plaisir parce que je vois pas autre chose que le plaisir. Je veux dire, la vésicule biliaire était là, ils ont pas ramassé pour la viande. Écoute, il y avait 3 pouces de gras, c'était un gros géniteur.
Ah.
Je trouve ça un peu dommage.
Très
une chance
dommage.
Que j'étais pas dans mon affût parce que je pense que je m'aurais fait tirer aussi, non?
Oui, ben c'est des choses que les gens réalisent pas. Hein. Ils s'imaginent là que bon, on est en pleine forêt boréale, on est quand même dans un endroit un peu isolé. Mais faut faire attention. Il y a des gens quand même qui vivent là. Il y a des gens qui font de la cueillette de champignons. On a nos amis de la famille Cox et puis tout ça là, qui sont dans les bois à faire de la cueillette. Il y a toi qui donnes de l'enseignement et puis tout ça. Ça peut être extrêmement dangereux.
Ah oh oui, puis tu sais, il faut pas oublier aussi pour les autres chasseurs, parce que tu sais, j'en connais un méchant paquet qui chasse, donc faut quand même tirer un ours dans un aire ouverte de 400-500 mètres qui est sur un bouton de sable. Quand c'est fort bien que de l'autre côté, il y a une chaise avec des caméras, c'est sûr que la caméra pointait pas dans cette direction-là, mais je veux dire, à quelque part, faut que tu sois totalement inconscient. Oui, total. Parce que quand même, si moi j'aurais été de l'autre côté avec des gens, écoute, on aurait mangé une balle. Je veux dire...
Ça aurait été moins drôle, ça, là.
Ben, moins drôle, ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est du braconnage pur et simple, c'est de la méchanceté pure et simple. Pourquoi? Pour le plaisir de quoi? De savoir que ta carabine, t'es capable de tirer un ours à 400 mètres. Je veux dire, c'est un petit peu ridicule, puis moi, ben... Moi, ça passe pas.
Non,
je le prends pas personnel, mais à quelque part, des gens comme ça, dans mon environnement, j'en veux pas.
Non,
je pense que les gardes-chasse vont faire leur travail, sont sensibilisés. Puis, ben, comme d'habitude, on va sûrement le savoir à un moment donné, Parce que, tu sais, le monde reste le monde, là. Il y en a tout le temps qui vont se vanter de ça à un moment donné, puis ben, on va finir par le savoir. Anyway, moi, j'ai fait mon boulot, puis je trouve juste ça plate, parce que ça crée une pression sur mon entreprise, ça crée une pression sur les gens qui sont des utilisateurs de la forêt, qui l'utilisent de bonne manière. Parce que moi, je suis pas un anti-chasseur, mais je peux te dire que je suis un anti-moron.
Oui, non, ça c'est... effectivement, t'as le bon mot. Puis écoute, Sylvain, naturellement, la belle saison continue. Hein? On est encore dans un temps où on peut monter dans le nord, faire l'observation. Naturellement, les chasses vont se terminer. La chasse, je devrais dire. Et puis, il reste du bon temps d'observation. Là, si les gens veulent te rejoindre, ils peuvent le faire comment?
Bon, la manière la plus simple, www.animalparquin.info. Puis juste une petite recherche avec Animal Parquin, vous allez trouver tous les réseaux sociaux. Puis oui, effectivement, je te dirais, écoute, les couleurs sont de plus en plus belles. C'est un bon temps jusqu'au mois de décembre. Fait que j'invite les gens à me contacter s'ils ont des questions. Ça me fait plaisir d'y répondre.
Et voilà, ben nous, on va rejoindre Sylvain naturellement chez lui. La semaine prochaine, on va jaser. Il y a toujours des nouvelles, hein? Même si on est dans le sud, on a notre nord bien-aimé, comme on l'appelle, plus grand que nature. Donc, on va aller rejoindre Sylvain la semaine prochaine. Ça, Sylvain, tiens-toi peinard et en sécurité, hein, comme on dit, fais attention à toi. Et on se rejase la semaine prochaine.
Oui, puis à tous les utilisateurs de la forêt, partagez-les et soyez prudents, parce que c'est ensemble qu'on a du plaisir en forêt, pas chacun de notre côté. Salut Guy, bonne semaine.
Absolument, bonne semaine.
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementplein-simplyoutdoors.ca
Un commercial Simplement plein air.
Salut Guy et bonjour à tous les auditeurs de Simplement plein air. Mon nom est Jonathan Goyer pour la chronique du VTT. Écoutez, cette semaine, je vais vous parler de règlements. Comme je disais un petit peu la semaine dernière, il y a des règles établies par le ministère des Transports du Québec. Donc, pour rouler en sentier légal. Et oui, faut suivre absolument les règles à la lettre. Sinon, on est possible de se faire intercepter par un agent de surveillance de sentier ou par la Sûreté du Québec, parce que oui, la Sûreté du Québec patrouille en sentier avec des VTT. Et donc, si on enfreint les règles, comme sur la route, ben on va recevoir une contravention, ce qui n'est pas très plaisant lorsqu'on pratique un loisir ou quand on va se promener en auto. Bref, c'est la même chose. On a des règles à suivre et c'est pas très plaisant de recevoir un ticket. Donc, je vais commencer par les règlements concernant ce que ça prend sur un quad. Et quand je dis un quad, je parle d'un motoquad. Donc, c'est des nouvelles appellations du gouvernement du Québec. Motoquad pour un VTT avec guidon, donc un VTT normal, un 4 roues. Et il y a aussi des autoquads, ce qu'on appelle communément appelé un côte-à-côte ou un side-by-side en anglais. Donc, pour un motoquad, les règlements de ce que ça prend, c'est, écoutez, ça prend, c'est pas compliqué, c'est si votre véhicule a été construit après le 1er janvier 1998, ça prend les équipements suivants. Donc, un phare blanc à l'avant, un feu de position rouge à l'arrière, un feu de freinage rouge à l'arrière, un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule, un système d'échappement, un système de freinage et un cinémomètre. Et si votre véhicule a été construit avant le 1er janvier 1998, il y a trois équipements qui ne sont pas obligatoires. Le feu de freinage rouge à l'arrière n'est pas obligatoire. Le rétroviseur côté gauche n'est pas obligatoire. Et le cinémomètre n'est pas obligatoire. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un cinémomètre, ben c'est un speedomètre. C'est ça, c'est pour indiquer la vitesse. Donc, ça, c'est ce que ça prend pour un motoquad, donc comme je disais tantôt, un 4 roues ou un 3 roues, effectivement, parce que oui, les 3 roues sont légales en sentier. Si vous avez juste un 3 roues, vous voulez aller faire du sentier, donc c'est les mêmes règlements. C'est une légende urbaine de dire que les 3 roues sont illégales en sentier, c'est complètement faux, mais il faut absolument que vous ayez ces équipements-là sur votre véhicule si c'est construit après le 1er janvier 1998 ou avant le 1er janvier 1998. Concernant les motoquads, on sait qu'il y a des motoquads une place avec un siège qui a été rajouté et on sait qu'il y a des motoquads deux places, un vrai deux places qu'on appelle. Donc, il y a un deux places qui est d'origine. Pour les VTT, une place avec un siège rajouté par le conducteur ou le propriétaire de la machine. Oui, vous pouvez embarquer une deuxième personne, mais il faut absolument, et c'est obligatoire, de suivre un cours donné par la FQCQ, donc par la Fédération québécoise des clubs quad, via ces clubs. Et il faut que vous, vous suivez le cours pour pouvoir embarquer une deuxième personne avec vous. Tandis que pour un VTT, un vrai deux places, donc d'origine, ce cours-là n'est pas obligatoire. Tout simplement parce que le VTT, une place, il est un petit peu plus petit en empattement. Et quand on rajoute un siège en arrière, ben le siège s'en va directement sur les pare-chocs et donc les suspensions. Et donc, le quad peut se renverser quand vous montez une côte ou une petite montagne, bref. Donc, tout ça n'est pas vraiment fait pour un deuxième passager. Donc, c'est pour ça que le MTQ demande un cours qui a été suivi par la Fédération pour avoir votre petite carte, pour vous promener légalement en sentier avec une deuxième personne. Si on embarque un enfant sur un VTT, donc un motoquad, l'enfant doit absolument et obligatoirement que ses deux pieds touchent au repose-pied du deuxième siège. Donc, soit un siège qui a été rajouté par vous, et ça prend absolument des repose-pieds, ou sinon, sur un VTT dit vrai deux places, il faut que l'enfant puisse accoter ses pieds sur les repose-pieds. Concernant maintenant un side-by-side, un côte-à-côte ou un autoquad, c'est les mêmes règles. Par contre, dans un autoquad, le miroir central, comme dans une auto, est obligatoire. Ça, c'est sûr et certain. Et si vous voulez embarquer un enfant, c'est interdit d'embarquer votre enfant dans un siège d'appoint s'il est trop petit. Ça, c'est complètement illégal de faire ça. Je sais qu'il y en a qui le font. Vous êtes pas, vous faites pas prendre, tant mieux pour vous. Mais la loi dit que c'est interdit d'ajouter un banc d'appoint pour l'enfant. Maintenant, pour qu'un enfant soit légal dans un côte-à-côte, il y a un règlement. Il faut que l'enfant soit à côté au fond et qu'il doit être capable de tenir la barre de sécurité qui est en face de lui. Il y en a beaucoup qui disent il faut que l'enfant touche au plancher comme un VTT, ce qui est complètement faux. L'enfant n'est pas tenu d'avoir ses pieds à côté au plancher sur un autoquad. Donc ça, c'est quand même très important à démystifier parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas aller en sentier avec leur enfant puisque leurs pieds ne touchent pas à terre. C'est complètement faux, oubliez ça. Simplement que l'enfant soit à côté dans le fond, porte la ceinture de sécurité correctement, et qu'il soit capable de tenir la barre de sécurité sans bouger de son siège. Maintenant, je parlais des ceintures de sécurité. Oui, dans un autoquad, les ceintures de sécurité sont obligatoires. Dans un autoquad, les portes aussi sont obligatoires. Si vous n'avez pas de porte, le filet peut faire l'affaire. Et aussi, dans un autoquad, ça vous prend absolument un casque, évidemment, et aussi une visière ou des lunettes. Si vous n'avez pas de visière sur votre casque, ça vous prend des lunettes. Même si vous avez un pare-brise devant dans votre autoquad, ça vous prend aussi des lunettes. C'est obligatoire d'avoir des lunettes parce qu'on ne sait jamais si une branche peut traverser pas la vitre en avant, mais dans le côté, donc pour ne pas recevoir de branche dans l'œil, le MTQ demande à ce qu'on ait des lunettes de protection ou une visière. Puis je dis des lunettes de protection, ça peut être n'importe quelle lunette, en autant que vous ayez quelque chose pour vous protéger les yeux. Maintenant, comme on est en période de chasse, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont aller en forêt pour chasser et ils vont emmener des petites remorques sur leur à l'arrière de leur véhicule pour pouvoir sortir leur gibier lorsque celui-ci va être mis à terre. Et ça aussi, il y a des règlements à suivre. Pour une remorque, donc c'est pas compliqué. Ce que ça vous prend sur une remorque, ça prend un feu de position rouge à l'arrière, un feu de freinage rouge à l'arrière, deux réflecteurs rouges situés à l'arrière le plus près possible des extrémités de sa largeur, deux réflecteurs latéraux, donc un droite et un gauche, de couleur rouge, situés à égale distance de l'avant et de l'arrière. Ça prend également une barre d'attache rigide qui empêche les renversements et les embardés, pivote de 90 degrés de part et d'autre et permet un mouvement de tangage sans compromettre la stabilité de l'ensemble. Et évidemment, si votre remorque est munie de roues, donc obligatoirement, il faut qu'elle soit plaquée. Écoutez, c'est pas à moi à dire que si vous avez le droit ou pas le droit. Moi, je vous dis, les règlements, c'est ça. C'est les règlements selon le MTQ. C'est sûr qu'il n'y a aucun agent de surveillance de sentier qui se promène dans les sentiers quad ou en forêt le temps de la chasse. Ça va être surtout la Sûreté du Québec ou les agents de la faune. Est-ce que les agents de la faune sont dispensés à donner des contraventions pour ces règlements-là? Non. Évidemment, c'est seulement la Sûreté du Québec. Pour l'instant, parce qu'on est dans le temps de la chasse et les agents de surveillance de sentier ne sont pas présents. Mais c'est à vous à vérifier si votre équipement est réglementaire selon les règles du ministère des Transports du Québec. C'est pas compliqué à savoir. Pour être tout à fait légal, vous avez simplement à aller sur la loi, taper dans Google la loi des véhicules hors route et vous allez tomber sur tous les paragraphes concernant la loi pour être sûr que vous soyez légal en sentier et que vous n'ayez pas attrapé de contravention. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis bonne chasse et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous!
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Et voilà, on est de retour à l'émission Simplement plein air. Et oui, à la radio, en balado, on est un peu partout. Et c'est le temps de l'émission où on va se décapsuler une bonne bière ou décaper une bonne bière, peu importe la façon dont vous appelez ça. On va aller rejoindre notre chroniqueur de l'âge de bière, M. Kevin Plante-Germain. Salut Kevin!
Bonjour!
Oh, ouh, c'était sobre celle-là! Hein? Oh là là! C'était.
J'essaie de varier mes introductions à chaque épisode, puis là je sais pas à combien on est rendu, mais à un moment donné, je commence à me manquer d'idées.
On a quelques-unes avec un S derrière la cravate, je te dirais. Et puis, écoute, cette semaine, tu vas nous emmener dans un monde qui, moi, je suis pas trop familier, mais on va parler de la session framboise de la microbrasserie du Lièvre.
Oui, monsieur. Microbrasserie de Lièvre, c'est une microbrasserie qui existe depuis début 2000. C'est vraiment longtemps, puis j'avais jamais osé, pas parce que j'avais pas envie, c'est parce que bon, ça s'apprêtait pas, puis il y a tellement de microbrasseries qu'à un moment donné, tu sais plus où te garrocher. Microbrasserie du Lièvre située à Mont-Laurier.
Ah, OK.
Ouais, ben c'est ça, tu sais, on dirait qu'elle passe un peu sous le radar, fait que je me suis dit, je vais essayer ça. Ça roule depuis début 2000, c'est Ce que j'ai goûté aujourd'hui, c'est la bière Session Framboise, qui est une blonde ale à la base, dont on a ajouté une quantité assez phénoménale de framboise. Gros trend en ce moment en microbrasserie, les bières aux framboises. Puis cette année, c'était vraiment l'année de la framboise, vraiment, vraiment, vraiment.
Ah, OK.
Fait que je me suis dit, tiens, une petite session, pour ceux qui peut-être ne sont pas familiers avec les termes, session veut généralement dire une bière à faible taux d'alcool parce que celle-ci s'est évaluée à 3,5%. Fait que c'est très bon.
Oh, OK.
Ouais, c'est une L qui a une légère amertume qui est dans le 9 environ, un IBU évalué à 9, c'est très, très, très peu significatif. Mais bon, tu sais, je me disais que Mont-Laurier, c'est une ville que je suis allé souvent à Mont-Laurier. Parce que c'est sur la route entre l'Abitibi et Montréal.
Ben oui, c'est ça.
C'est en sortant du parc, tout le monde collait Mont-Laurier, mais jamais je m'étais arrêté à dire « Ah, il y a une microbrasserie, puis tu sais, c'est une ville que je veux pas. » Il y a une économie de passants qui roule là, puis je pensais que ça pourrait être intéressant de les encourager.
Oui, non, ça c'est sûr et certain. Mais comme tu dis, elle passe sous le radar parce que on a passé là souvent. Moi, j'ai passé là souvent. J'ai jamais arrêté.
Oui, ben c'était ça. Fait que je me suis dit, je ne passe plus par là souvent, mais je me suis dit, tiens, on va les encourager, on va regarder qu'est-ce que ça dit. Ils sont maintenant, en fait, ils ont commencé à faire de la canette de 473 millilitres parce qu'avant, ils étaient en bouteille. Puis là, ben je me suis dit, tiens, c'est une belle occasion. La canette, elle est le haut de la canette, je dirais le deux tiers du haut, c'est rouge et rose. On a une image de framboise avec une espèce des pétales en forme de houblon. Tout le tour de la framboise. Le bas est vert, puis c'est marqué Session Framboise dessus. Une belle petite canette qui flash à l'œil avec un design très sobre à sa manière. T'sais, rien de trop fancy, trop complexe. C'est coloré, c'est ensoleillé.
Oui, c'est cute. J'ai justement, je l'ai justement là devant moi, pas la bouteille ou la canette, là, Mais l'image, justement, là, j'ai fait une petite recherche et puis c'est vrai, c'est sobre, mais c'est quand même une bière qui a une belle robe. Hein?
Oui, ben, elle a une robe particulière parce que ce qui m'a un peu impressionné, ce qui m'a étonné, hein, c'est que c'est rare des bières blondes qui sont utilisées comme base pour des bières aux framboises. Parce que généralement, on va prendre des blanches ou on va prendre des Berliner Weiss pour mettre le fruit.
Mm-hmm.
Fait qu'avec une bière, avec une base de bière blanche, blonde, pardon, on va avoir un teint qui va être un peu plus orangé que rosé.
Effectivement, c'est assez spécial.
Donc, on a, mettons, disons, une base style vin rosé, là, sans être complètement rose, avec des reflets orange. La mousse s'estompe quand même assez rapidement, puis il y a une bonne effervescence à l'intérieur. Fait que ça s'annonce quelque chose de craquant, rafraîchissant. Visuellement, là, comme ça, une fois dans le verre. La bière aussi là, est complètement filtrée. C'est limpide au bout.
Ah oui?
Ouais, c'est rare. Encore une fois, on est dans un peu un terrain inconnu.
Oui, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Puis au nez et à la bouche, ça donne quoi?
Ben, au nez, premièrement, regarde, c'est pas une surprise. Là, c'est la framboise qui domine absolument tout le paysage olfactif. Même en ouvrant la canette, là, juste là, quand tu as crack, parfum fruité puis qui explose jusqu'aux narines, là, peu importe la distance que tu tiens de la canette, là, c'est vraiment là, grosse framboise fraîche qui sort. En bouche, texture légère et soyeuse sur la langue, la framboise est tout sauf envahissante. Elle est présente, mais elle n'est pas dérangeante. Elle est même beaucoup plus sèche que le nez peut laisser imaginer. Ça, c'est une belle qualité parce que souvent, des bières aux framboises, ça va être sucré. T'sais, pour aller simuler l'effet de jus de fruits. Mais celle-là, elle a une super de belle sécheresse, puis ça y donne des avantages rafraîchissants super intéressants. L'effervescence, elle est gentille au passage, puis ça rajoute une belle petite impression croquante. Elle possède un faible taux d'acidité. En fait, c'est même une acidité qui est probablement naturelle à la framboise elle-même. Mm-hmm. Puis il y a des impressions florales en fond qui rajoutent un petit côté très doux à tout ça. Amertume complètement absente. La gorgée se termine avec des notes finement minérales aussi, là, juste pour... ça, c'est propre aux bières à faible taux d'alcool. Ça la rend très, très buvable. C'est une bonne, grosse buvabilité.
Ouais.
Honnêtement, Guy, cette bière-là, j'avais pas d'attente parce que je connaissais pas. Puis je suis bien surpris. Je te dirais que si je l'avais découvert avant, c'était probablement une go-to de l'été. Pour son faible taux d'alcool, son goût super rafraîchissant, la framboise bien présente, c'est frais, c'est léger. Puis, tu sais, je regrette de ne pas l'avoir tenté avant. C'est tout ce que j'ai à dire. Fait que ça m'a ouvert la porte sur Microbrasserie du Lièvre. Puis genre, là, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont d'autre à offrir. Parce que celle-là, elle m'a agréablement surprise. Puis j'irai sur place, puis j'en prendrai un pichet. Là.
Oh, OK, à ce point-là.
Ouais. Oh oui, c'est buvable, c'est peintable.
Oui, parce que finalement, tu sais, qui n'aime pas la framboise?
Hein?
Qui n'aime pas la framboise? C'est rare, là. Mais surtout quand on regarde cette bière-là, là, le visuel aussi de la bière qui est limpide et beau. Tu sais, fait qu'on ne s'attend pas à une bière aussi légère.
C'est ça, drôle, exactement. Tu sais, c'est ça le... Puis en fait, honnêtement, j'ai été un peu étonné de voir le pourcentage d'alcool. J'ai fait 3,5 framboises, tiens. C'est vraiment hors de l'ordinaire, puis je me lance. Parce que souvent, les bières Berliner Weiss, là, les bières un peu plus acides, ils vont tendance à avoir des taux d'alcool plus bas. Mais là, on a moins d'acidité, on a un profil frais, un profil léger, un bon fruit. C'est une recette qui est vraiment gagnante. Il y a la robe que je trouve un peu bizarre, mais je comprends, tu sais, le visuel, tant qu'à moi, il gâche pas l'expérience de cette bière-là. Puis elle est bien équilibrée pour ce qu'elle veut offrir. Puis je donne mon buy-off là-dessus, là, facile.
Absolument. Puis en terminant, Kevin, parle-nous un peu de l'âge de bière.
Ouais, l'âge de bière, ben en fait, vent dans les voiles, ça va toujours très, très bien. À tous les semaines, à tous les jeudis, on publie un rocambolesque épisode de moi, RF et Phil qui discutons et buvons de la bière, des bières commerciales et artisanales. On reçoit des gens aussi, des gens du milieu, on jase entre amis, on reçoit aussi d'autres podcasts, des gens, des fois. Cette année, on a quand même un beau menu qui s'en vient, puis on est vraiment content, ça va bien. On vous invite à nous suivre sur Facebook, l'âge de bière, on est sur Twitter, on est sur Instagram. Aussi, puis on est disponible sur toutes les plateformes traditionnelles d'écoute de podcast. On vous encourage, ça va bien, on a beaucoup de plaisir à faire ça. Puis c'est ça, ça continue, puis c'est pas prêt d'arrêter.
Oui, puis moi je vous dis, ça vaut le détour. Prenez le temps d'aller faire un tour, allez écouter Et puis, vous allez devenir accro là, pour les amateurs de bonne bière. Puis, moi, ce que j'aime naturellement, et naturellement, nos auditeurs nous le disent aussi, c'est que on va arriver dans un endroit, dans un dépôt de bière, j'appelle ça un dépôt de bière, là, mais dans un endroit où ils vendent de la bière de microbrasserie, et on a, comme on sait, un char et une barge pour pas, t'sais, pour utiliser le terme québécois, il y en a beaucoup. Et puis, on ne sait pas, on ne sait plus où se garrocher. Donc, des balados diffusion, genre l'âge de bière et justement des chroniques comme on a ici, c'est fort intéressant parce que c'est instructif pour nos amateurs de bière et puis nos amateurs de plein air. À la fin d'une journée plein air, on aime bien déguster une bonne bière. C'est de plus en plus in, comme on dit. On aime beaucoup le vin, mais on aime beaucoup notre bière de chez nous. Donc, écoute, là-dessus, nous, ben, naturellement, on se rejoint la semaine prochaine et on va parler de la réfraction. C'est bien ça, de la microbrasserie Saint-Honoré?
Oui, monsieur.
Yes. So, entre-temps, si vous prenez une bière, prenez pas le volant. Faites attention, on veut que vous soyez là la semaine prochaine. Ciao, bonne semaine, bonne bière, mon cher Kevin.
Toi aussi, Guy.
Envie de vous égarer?
Simplement plein air.
Envie de changer d'air?
Simplement plein air.
Avez-vous envie de grands espaces?
Simplement plein air.
www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca
À commercial, simplement plein air.
Ben voilà, c'est parti pour une autre édition de notre rando-rencontre. Bienvenue tout le monde. Salut les passionnés, ici à Pascal Auger. Journaliste conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue donc à notre rando-rencontre que vous écoutez peut-être en direct à la radio ou encore en rediffusion via le podcast. Et puis, il y a ici aussi la version YouTube disponible sur la chaîne québeccompostelle.com. Et puis, comme d'habitude, ben, on va prendre le temps d'échanger sur la randonnée avec non pas un, mais deux invités. Je dis deux, ben, on a déjà eu deux invités en même temps, mais les deux étaient ensemble. Et là, je m'explique, c'est deux personnes que j'ai rencontrées de façon individuelle, mais à des moments différents, mais les deux faisaient le chemin du Québec. Donc, ça me permet de vous donner des exemples concrets des gens qui marchent sur le chemin du Québec. Alors que je vous parle même présentement, on a aussi deux couples français qui sont sur le chemin du Québec. Un qui a décidé de passer par la variante nord, donc par Charlevoix, et l'autre par la variante sud. D'ailleurs, l'autre, je dis l'autre... Anne et Christian sont des gens qui étaient venus l'an passé marcher de Montréal jusqu'à Mont-Carmel. Ils ont tellement aimé leur expérience. Cette année, ils viennent pour terminer leur trajet au phare de Cap-Gaspé. Et puis, l'autre couple, c'est Martine et Marcel. Eux, ben, c'est leur première expérience au Québec sur un chemin de grande randonnée, mais ils en ont fait plein là, en Europe et surtout à Compostelle. Et eux ont décidé de le faire au grand complet, notre 1200 km. C'est le fun, c'est excitant, c'est agréable. C'est bien le fun de vous en parler. Donc, on parle des circuits québécois. On parle du chemin... des chemins de Compostelle, du chemin du Québec également. Et puis, en tout temps, on est là pour répondre à vos questions. Vous pouvez nous rejoindre par Facebook, par courriel, par Messenger également. Tout ça est disponible sur québeccompostelle.com. Allons-y avec notre invité, premièrement. Ben, je ne vous ai pas nommé, hein? Nathalie Melançon et Marie-Claude Claveau. Nathalie a fait... Bon, j'ai rencontré Nathalie il y a quelques temps. Elle a fait de la formation avec moi. Elle est venue marcher aussi dans des journées de rando, une fin de semaine de rando, parce que son objectif, éventuellement, c'est de faire Compostelle. Et là, ben, elle a décidé de faire un 2 semaines de rando au Québec. Elle est partie. Ça, c'est un classique. On fait ça quand on fait Compostelle également. On barre la porte. À Compostelle, les gens font ça, barre la porte, puis ils se mettent à marcher vers Santiago. Même principe pour elle. Elle habite Saint-Lambert. Elle a barré la porte, partie en rando pendant 16 jours vers Québec.
Un rêve qui a pris forme un pas à la fois. Là. Jamais j'aurais pensé un jour marcher autant. Puis aimais ça. Sur mon chemin, j'ai suivi le canal de Richelieu, le canal de Chambly. Ben moi, je suis passée là avec mon bateau. Et puis jamais j'aurais pensé qu'un jour j'aurais marché sur la traîne à côté. Mais c'est juste pour dire que dans la vie, des fois, on ne sait pas ce qui est fait demain. Mm-hmm. Et puis en fait, demain. Souvent, il est toujours plus beau. En tout cas, pour ma part, là, depuis quelques années, demain est toujours plus beau.
Ben, avouez, hein, c'est une belle citation, ça. Demain est toujours plus beau. Puis ça, en plus, ça vient de Nathalie, qui était une fille très sédentaire, bougeait pas, fumait. Puis à un moment donné, c'est passé un déclic dans sa vie, vu des gens malades, des gens qui sont décédés, tout. Une petite fille qui est arrivée, qui est née, hein, elle est devenue grand-mère, elle a décidé de se prendre en main.
Ah, oh, très, très sédentaire. Très sédentaire. Les vacances dans le sud, j'en ai fait près d'une quarantaine de fois, là. Mmh. Aller faire le bacon sur la plage, à rien faire, se faire servir, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le fun de voir aussi, je suis une personne très insécure, fait de l'anxiété, et puis là, je vais passer 18 jours en tout et partout avec juste le contenu d'un sac à dos.
Notre autre invité aujourd'hui, ben encore une femme, oui, parce que majoritairement, les gens qui font de la rando, ce sont des femmes pour l'instant. On va essayer d'équilibrer ça un jour, tant mieux, ce serait le fun si autant les hommes en profitaient que les femmes. Marie-Claude, je l'ai rencontrée alors qu'on marchait ensemble. Nathalie, qui vient de jaser, elle, on s'est jasé à distance alors qu'elle était sur le chemin. Mais Marie-Claude, j'étais avec elle il y a quelques semaines, on faisait une semaine de rando dans le secteur, je veux dire Appalaches. On l'appelle le secteur citadin entre la rivière Saint-François puis la rivière Chaudière, entre Richemont puis Vallée-Jonction. Donc, on s'est mis à jaser, puis elle m'expliquait d'où ça venait, ça, cette idée-là de faire de la rando pédestre longue durée, de la rando communautaire.
Bien, moi, j'avais comme objectif... Bien, au départ, je m'étais dit, l'année passée, à la fin de mes vacances, je me disais, oh, l'année prochaine, là, pour mes vacances, j'aimerais ça faire une marche. Okay. Marcher pour mes vacances. Puis, compostais, j'aurais aimé ça, mais je me disais, moi, c'est peut-être gros un peu par rapport à où j'en étais, par rapport à la marche, tout ça. Et puis, mais je m'étais mis ça comme dans l'univers. Là. J'aimerais ça faire une vacance de marche, là, tout ça. Et puis là, ben, j'ai vu la publicité de Pascal. J'ai dit, tiens, on va commencer par ça. Je vais faire la formation de trois jours pour savoir ce que ça prend, etc. Puis là, j'ai fait quelques marches, là, durant l'année aussi, puis quand les marches sont sorties, tout le long de l'année, ça me restait. Je veux faire une marche, je veux faire une marche, je veux faire une marche. Puis là, ben, j'ai choisi de faire la marche citadine là, du mois d'août.
OK.
Puis là, c'est là que je suis rendue. Je suis en plein dedans. Là. Je peux pas vous dire, je vais peut-être continuer d'être une grande marcheuse. Puis ça, je ne sais pas encore. Je suis très impressionnée par le trajet est extraordinaire, là, vraiment. Là, le trajet qui est proposé est extraordinaire. Le dépassement physique est exceptionnel pour moi. Je vais parler en jeu, peut-être c'est pas tout le monde qui est là. Moi, je me suis dépassée énormément physiquement. Je suis bien fière de tout ça. Puis, on va se décanter ça parce que c'est une grande expérience.
Ouais, définitivement, c'était vraiment un beau chemin qu'on a fait ensemble, ben, tout le long du 1200 km, faut que je vous avoue, là. Et dans le secteur où on était, beaucoup de vallons de montée, de descente. Des fois, un peu un défi, mais quand même des paysages magnifiques.
Ben. Premièrement, les paysages de Chaudière-Appalaches, de Centre du Québec et de l'Estrie, pour moi, c'était comme la nouveauté. C'était comme si j'étais dans un nouveau Québec que je connaissais pas. Je suis plus fleuve, Saguenay, Québec. C'est vraiment, là, ça m'a vraiment impressionné de la beauté de ces vallons, ces montagnes, ces... Puis on est quand même au mois d'août, ce qui est extraordinaire. Toutes les fleurs sauvages sont à leur maximum de beauté. La beauté de la nature, c'est exceptionnel. Ça m'a beaucoup impressionné. Le fait d'être en groupe, j'ai trouvé ça le fun aussi. C'est vraiment agréable. Là. On n'est pas obligé de tout le temps se parler, mais on est ensemble, on mange ensemble, on a du fun, on se fait des farces. Puis ça, j'ai beaucoup apprécié ça aussi. Puis, c'est ça. Franchement, le Québec, c'est comme de l'intérieur du Québec en étant dans ce secteur-là. Puis je trouve ça vraiment, vraiment...
Alors toi là, qui es assis sur ton sofa présentement, t'as le goût de bouger? Moi, je sais que t'as le goût de bouger, tu le sais peut-être pas encore. Alors, si ça vous tente de découvrir ça, de la randonnée pédestre de longue durée, de la rando communautaire, on prend ça un pas à la fois, on commence par de la formation, ensuite on fait une journée de rando, 2, 3, 4, 5, puis après ça, on part pendant 2 mois. Ah oui, je vous le dis! Vous êtes assis sur votre sofa, les bras croisés, en train de vous dire, ben oui... Ben c'est ça. Il y en a plusieurs comme vous qui étaient comme ça avant. Puis si jamais ça vous intéresse, donc, ben, je vous invite à aller faire un tour sur le site interpostel.com. Vous allez voir, on a plein de trucs finalement. Autant des ateliers en ligne, peu importe où vous êtes à travers le monde, à travers le Québec, de suivre les ateliers en ligne. Puis après ça, ben, ça vous tentera peut-être de venir faire une journée de rando. Peut-être, mais après ça, une fin de semaine, une semaine. On a des randos séjours d'une semaine également. D'ailleurs, on parle bientôt. Les valises sont prêtes. Dans notre cas, c'est pas des valises, c'est un sac à dos. Un petit sac à dos. On s'en va en Gaspésie pendant une semaine. Le groupe est complet, une douzaine de personnes. Magnifique. Il y en aura d'autres à venir également. Des randos séjours d'une semaine, 12 mois par année. Il y a des week-ends formation rando également pendant toute une fin de semaine. On vous explique exactement comment ça marche, la rando à Compostelle ou encore au Québec. C'est pour ça qu'on appelle ça Québec-Compostelle, finalement. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier, donc, et aussi, il y a le Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Voilà, nous sommes de retour et à ce moment-ci de l'émission, bien naturellement, on parle toujours mycologie, on parle biologie. On parle de champignons, comme on dit en bon français, et avec notre ami, notre bon ami, Monsieur Roger Larivière. Bonjour, Monsieur Larivière.
Oui, bonjour, Monsieur Martin.
Et puis, j'ai oublié de mentionner, pour le bénéfice de nos auditeurs, Monsieur Larivière est conférencier, auteur, éditeur, beaucoup de plumes à son chapeau. Mais là, aujourd'hui, on va parler de champignons, ben oui, parce que là, la cueillette, moi, je dirais que dans certains secteurs, du moins là dans le nord, comme où est M. Larivière en Abitibi, c'est pas mal terminé, là, hein?
Ah, moi, je vous dirais que j'ai constaté hier après-midi que cette fameuse cueillette-là était vraiment à sa fin. Et on ne retrouve que quelques champignons qui sont soit en état de déliquescence, ça veut dire qu'ils sont gluants, ils coulent vers le sol, puis pour ne pas dire complètement disparus. Moi, je croyais hier mettre la main sur une dernière chanterelle qui serait là, mais malheureusement pas. Puis pourtant, j'étais dans des endroits où il y en a d'habitude. Et puis, on trouve aussi, à cette période de l'année, des armillaires ventrus, ne serait-ce que des gros, puis j'ai rien vu de ça, et il y aurait dû en avoir. Ça fait que tout ce qu'on peut trouver à ce temps-ci de l'année, là, c'est des champignons, en tout cas dans ma région, donc dans mon secteur, qu'on appelle la forêt boréale, c'est des champignons qui vont être souvent plein de vermines et donc impropres à la consommation.
Oui, exactement. Et puis, une chose aussi qu'il faut rappeler, parce que là, les gens pensent peut-être, « Ah oui, mais ça, c'est dans le nord, c'est en Abitibi. Nous, ici, dans le sud, il fait un peu plus chaud, il n'y a pas eu trop de gros gelées. » On pourrait quand même y retrouver, parce que finalement, c'est pas le temps de l'année qui fait que le champignon disparaît, mais bien la température, si je ne m'abuse.
Oui, les champignons, ben on va rappeler à nos auditeurs que les champignons, qu'ils soient ceux qu'on achète à l'épicerie ou ceux qu'on cueille en forêt, un champignon, c'est composé de 85 à 90, puis des fois plus, 90% d'eau. Alors, vous comprenez que s'il fait froid et qu'il y a du gel au sol, ben, les molécules d'eau qui se retrouvent dans les cellules du champignon, ben, ils vont cristalliser et ça fait éclater les cellules. Et un champignon qui a toutes ses cellules éclatées, ben, ça sera un peu comme nous. Ben, on frôle la mort, pour ne pas dire, on est dedans, là.
Oui.
Ça fait, c'est fini, mais c'est quand même bon signe parce qu'il va y avoir autre chose durant l'hiver ou bientôt, c'est le fameux chaga.
Oui, mais justement, vous me volez la vedette, là, M. Larivière, parce que je voulais mentionner que la semaine prochaine, on va entamer une conversation sur le chaga avec M. Larivière. J'ai en ma possession un très bon livre édité, et bien pas juste pas édité, bon, édité à cause de la maison d'édition, mais notre auteur étant M. Larivière. Donc, on va parler, cher gars. Vous avez eu une collaboration, je pense aussi, hein, sur ce livre-là.
Oui, je dois vous dire que quand j'ai décidé d'écrire ce livre-là, j'avais déjà écrit un chapitre dans mon livre sur les plantes comestibles et médicinales et il y avait un sous-titre après et les bienfaits du chaga parce que je voulais absolument parler du chaga à l'époque. C'est un livre qui est sorti en 2016. Suite à des conférences que je faisais ou des ateliers que je donnais, ben j'avais toujours des questions sur le chaga. Puis on me posait la question, « C'est-tu vrai? » ouais. Tout ce qu'on dit sur le chaga en lien avec, avec les bienfaits, ben c'est bien sûr que ça pourra faire une chronique, deux chroniques.
Ouf, ça va en faire quelques-unes parce qu'on va, oui, comme vous le mentionnez tellement bien à l'arrière de la jaquette du livre, on dit comment et quand le cueillir, comment l'apprêter et le conserver. Et quels sont les effets potentiels des molécules thérapeutiques? Donc, je pense que ça va nous faire une coupe de 4, 5, 6, peut-être même une série sur le chaga. Mais sachez que le chaga, comme vous l'avez bien mentionné, il y a tellement de choses qui entourent ça. Il y a tellement de... C'est pas des mythes, là, mais il y a tellement de oui-dire, si on veut, là. Qui se disent là-dessus sur le chaga, et puis mais là, votre bouquin, lui, l'indique vraiment bien, chaga en vrai.
Ben oui, on voulait donner l'heure juste sur ce fameux champignon-là, et pour faire ça, moi je suis allé chercher, évidemment, excusez, le raisonnement scientifique qu'il y a derrière, donc des études, puis même sans parler d'études, on va parler d'histoire derrière la consommation du chaga. Fait qu'on va se garder des belles surprises dans les prochaines chroniques.
Absolument, et puis moi je vous dirais là, que de la nature à nos cellules, c'est tellement vrai. Moi, étant consommateur de chaga depuis... assez longtemps, admettons, parce que mon père était justement un amateur de chaga, et vous savez tous que je dépasse un petit peu les 60 ans. Donc
À peine.
Donc ça fait quand même quelques années que je consomme du chaga et que je récolte du chaga. On a toujours du chaga dans la maison. Moi, il se passe pas un déjeuner sans qu'il y ait du chaga sous une forme ou une autre. Donc,
excellent. Oui. Je dois vous ajouter aussi pour le bénéfice de vos auditeurs, les auditeurs de Simplement Plein Air. Puis moi, je trouve que ça ajoute de la puissance au message. Votre père était médecin.
Oui, absolument.
Alors imaginez que vous avez un père médecin qui est déjà un promoteur des bonnes habitudes de vie et de la santé et qui voit son fils prendre du chaga, alors puis sans jamais contredire en plus, probablement que votre père vous encourageait à l'époque s'il
absolument
était vivant.
Absolument.
Alors moi je trouve que c'est une partie de l'information qui est absolument essentielle pour les auditeurs.
Oui, et puis même que dans toutes les sphères, même celui qui m'a introduit à la mycologie un peu, disons qu'on mon père s'en tenait toujours aux champignons qui n'avaient pas de sosie, comme on dit, là. Les champignons qu'il connaissait. Excusez. Il m'a introduit à ça. Et moi, ben, naturellement, à travers les âges, j'en ai découvert aussi d'autres. Donc, oui, mon amour de tout ça vient de lui, c'est sûr. Parce que mes parents m'ont toujours dit que j'étais né dans un canot. Et puis, moi, de croire jusqu'à l'âge d'environ 12 ans que j'étais vraiment né d'un canot, j'ai dit, moi, j'étais un gars de bois, je suis né d'un canot.
Ouais.
Et puis, ma mère a fait éclater ma bulle à l'âge de 12 ans. Elle dit, arrête de dire ça, ça a l'air fou un peu. T'es pas vraiment né d'un canot, là. T'es né à l'hôpital. Oh, ma bulle, as-tu pété, vous pensez, vous?
Ouais, mais il y avait peut-être un canot dans pas loin, un petit canot.
C'est sûr qu'il y en avait. Il devait en avoir, c'était au mois d'août, il devait en avoir un sur le Jeep à mon père quand il était mené ma mère à l'hôpital. Ça, c'est sûr et certain. Oui, monsieur. Donc, écoutez, là-dessus, bien, naturellement, le temps file rapidement. Si les gens ont des questions, si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter M. Larivière à propos des bouquins aussi. Il y a 9 ouvrages, hein, si je ne me trompe pas, M. Larivière.
C'est plus. Il y en a 10.
Il y en a 10.
Oui. C'est ça, mais. Puis en plus de ça, on est en réédition cette année, là, dernièrement. Ça fait que je voulais vous dire que les gens sont tellement intéressés par les plantes, les champignons, surtout en période de pandémie. Alors, merci à tous les auditeurs de nous encourager. Achetez nos livres. Oui. Alors, sur le site web naturate.ca, ben, vous avez la liste de tous les ouvrages et vous pouvez me rejoindre aussi par Facebook, c'est très facile.
Absolument, et naturellement, si vous avez des questions, s'il y a des choses, commencez à emmagasiner vos questions là, sur le Chaga et puis allez soit sur la page Facebook de M. Larivière, soit sur celle de Simplement plein air, posez les questions. Et M. Larivière va y répondre. On va commencer à en parler la semaine prochaine. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Là-dessus, M. Larivière, j'étais pour vous dire bonne cueillette, mais c'est pas mal terminé dans votre coin. Donc, je sais que vous allez trouver quelque chose d'autre à faire. Après les premières gelées, ça va être le chagrin.
Le chagrin, ben oui.
Et voilà.
Alors, nous, à bientôt.
À bientôt.
Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre. Temps frisquet, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.